Chapitre 4. C'était chose accomplie. Elias vivait enfin dans la solitude immense de la tanka, animé seulement par quelques cris, par quelques sifflets de pâtre, par les clochettes des moutons ou par le mugissement du bétail, borné par les bois épais de chêne-liège qui fermaient à l'horizon le ciel serein. La tanka des Porte-Loups avait été défrichée plusieurs années auparavant, et elle se déployait, ouverte, spacieuse, battue par le soleil. Quelques chênes-lièges se dressaient encore çà et là, parmi la verdure des herbages, des buissons, des ronces. Sur les pelouses humides, la végétation était molle, délicate, parfumée de thym et de menthe. Avec le printemps qui déjà tirait à sa fin, les gras pâturages prenaient un ton chaud d'or vert. Les chardons épanouissaient leurs fleurs d'or et de violette. Les églantiers balançaient leurs roses sauvages. L'herbe ne restait verdoyante que sous les arbres et dans les pacages humides. Quoique plate et déboisée, la tanka avait des recoins secrets, des rochers et des maquis. Dans certains endroits, le ruisseau coulait entre des bouquets de sureaux où le soleil pénétrait à peine, formant de petits lacs verts et mystérieux, entourés et parsemés de roches, contre lesquels l'eau venait se précipiter et se briser en clapotant. Le long des rives, jusqu'à une certaine distance, la végétation se conservait tendre et fraîche. La nuit, l'odeur des joncs et des menthes y était presque insupportable. Le troupeau des Porte-Loups, suffisamment nombreux, pâturait à l'aise dans ce domaine. Les brebis semblaient énormes, avec leur épaisse toison emmêlée. Déjà les agneaux étaient grands et forts. On devait procéder à la tonte la semaine suivante. Elias, dans ce lieu solitaire et sauvagement beau où il avait grandi, où s'était écoulée sa première jeunesse, éprouvait une sensation de bien-être physique. Chaque jour, il cherchait et retrouvait avec plaisir quelques coins écartés, quelques retraites de la tanka. Les deux chiens, l'un gros et noir, avec deux yeux farouches, assis fièrement sous l'arbre au pied duquel il était enchaîné, l'autre petit, avec le poil roux et hirsute, ressemblant un peu à un marcassin, avait reconnu leur jeune maître. Et celui-ci, en les caressant, avait presque pleuré. Outre les chiens, il y avait encore à la bergerie un gros chat noir. Il y avait un petit cochon apprivoisé, rempli de malice, avec des yeux vifs et doux, qui avait quelque chose d'humain. Il y avait un beau cabri blanc qui servait de guide aux brebis et leur ouvrait allègrement la route lorsqu'il fallait franchir un pas difficile ou traverser l'eau à gué. Ce cabri, quand il ne paissait point, se tenait toujours près de Mathia, était toujours sur ses talons, courait après lui, sautait sur lui, le couvrait de mille caresses. Il entrait dans la cabane, tourmentait le chat, jouait avec le petit cochon ou avec le petit chien, et dormait au pied de son maître. Bref, c'était un animal adorable. La vie s'écoulait simple et primitive dans la bergerie des Porte-Loups, fréquentée seulement par les pâtres des environs ou par des gens de passage. Les individus suspects, Contumax ou autres, n'y venaient pas. Tio Porte-Loup était un homme honnête et énergique. Mathia était trop niais. Elias n'avait aucune envie de renouer les relations qu'il avait eues autrefois ou de s'en faire de nouvelles. À présent, le jeune homme aimait la solitude. Et durant les premiers jours passés à la bergerie, il fuyait même la société des siens quand on n'avait pas besoin de son travail. Il errait de côté et d'autre, et lorsqu'il rencontrait des lieux qui lui rappelaient son enfance, il était pris d'émotion. Il s'attendrissait aisément à propos de tout, mais sitôt apaisé le premier émoi instinctif de son âme, il s'irritait de ce qu'il croyait être une faiblesse. D'autant plus que si son frère et surtout si son père s'en apercevait, il se moquait de lui. « Hélas, hélas, qu'es-tu maintenant, mon fils ?» lui disait Tio Porte-Loup. « Tu es un homme de fromage frais. Pour la moindre chose, tu pâlis comme une femmelette. Ce qu'il faut, c'est être des hommes, des lions, ne s'émouvoir de rien, ne pas changer de visage, ne pas pleurer. Qu'est-ce qu'un homme qui pleure ? Une corne. Voilà ton frère Mathia. Ce n'est pas un aigle, et souvent il s'étonne sans raison. Mais du moins, il ne change pas de couleur. Et puis, quelquefois, l'étonnement même est une astuce. Oh, ne regarde pas ainsi ton frère, il est plus malin que toi. » Après ces petits sermons, fréquemment répétés, Elias prenait la résolution d'être malin lui aussi. Mais certaines pensées, certains souvenirs, certaines sensations l'assaillaient si brusquement qu'il n'était plus maître de lui-même. Et il recommençait à s'attendrir, à enrager, à être honteux. Il avait emporté avec lui tous les livres qu'il possédait, et ce n'était guère. La Semaine Sainte, quelques petits ouvrages pieux rapportés de là-bas, la bataille de Bénévent, des poésies sardes, une vieille botanique illustrée. Il cacha ses livres dans un lieu sûr, bien abrité sous une roche, près d'un bosquet de sureaux qui était son endroit favori lorsqu'il voulait se reposer. Mais ce n'était pas tout. Tio Porteloup et Mathia, ce dernier savait lire, avaient aussi leur bibliothèque. I Reali di Francia et Guerino detto il Meschino et les Fioretti de Saint-François. Que de fois Mathia les avait lus, ces livres, et pour lui-même, et pour son père, et pour leurs amis les pâtres. Et quelle impression enfantine éprouvaient ces hommes rudes, qui prétendaient rester insensibles à toute autre chose, chaque fois qu'ils lisaient ou qu'ils écoutaient les aventures de Guerino et les légendes des Fioretti. Le livre préféré d'Elias était la Semaine Sainte. Déjà il savait par cœur les évangiles, il les lisait presque couramment, même en latin. Il s'en allait dans son bosquet de sureaux, à la fraîcheur, à l'ombre embaumée par les joncs, près de l'eau murmurante. Et il relisait la divine parole. À cette heure-là, les besognes de la bergerie étaient achevées. Mathia trottait vers Nuoro, sur la jument suivie de son poulain, avec la sacoche pleine de fromage frais et de recuite. Tio Porteloup, assis sur le seuil de la cabane, entaillait et gravait avec patience une courge, où il dessinait justement un épisode de Guerino, marmottant entre ses dents, parlant à la courge, au canif, à ses doigts, à l'encre qu'il employait. Et les brebis faisaient la sieste à l'ombre des maquis, et le petit cochon, le cabri, le chat et les chiens dormaient. La tanka reposait toute dans l'ardeur du soleil, sous le ciel de métal clair qui devenait cendré en s'abaissant à l'horizon. Pas une herbe ne remuait. Elias relisait son livre, bercé par le murmure de l'eau. Mais dans cette paix immense, il n'avait pas le cœur tranquille. Souvent, au milieu d'un verset, quelques souvenirs traversaient son esprit comme un éclair, s'imposaient tyranniquement à sa pensée. Et ce souvenir n'était pas bon. Oh non, il n'était pas bon. Quelquefois, il s'endormait dans le calme profond de midi. Et jamais alors Maddalena ne manquait de lui apparaître en rêve. Et ses rêves le troublaient, l'excitaient douloureusement, lui laissaient une mauvaise impression pour toute la journée. Il avait espéré que, loin d'elle, il s'apaiserait et oublierait. Mais le souvenir des jours passés à Saint-François était trop récent. Il en avait encore les veines embrasées, et sa volonté ne suffisait pas à vaincre une telle ardeur. La solitude, le loisir, les forces physiques renaissantes augmentaient sa passion. Ce qui contribuait plus que tout le reste à l'accroître, c'était l'image fixe, persistante, indestructible, du retour après la neuvaine. Presque toujours les rêves d'Elias reproduisaient les particularités de cet épisode, car les épaules, la taille, la main du jeune homme conservaient intacte l'impression charnelle du corps et de la main de Maddalena. Et au souvenir des paroles qu'elle lui avait dites, son esprit s'égarait de nouveau dans un vertige de plaisir et d'angoisse. Il s'en indignait, mais il ne pouvait pas se vaincre. Parfois ses lèvres répétaient le vœu prononcé. Mais au même instant, sa pensée retournait à ce souvenir et s'y perdait. Alors il se courroussait contre lui-même, se couvrait d'injures, aurait voulu se bâtonner, se châtier. Mais il lui était impossible de se vaincre. « Mon père a raison, pensait-il. Je ne suis qu'un bonhomme de fromage frais, une brute, un sot. Qu'ai-je besoin de penser aux femmes, et surtout à la femme que mon devoir me défend même de regarder? Ne peut-on vivre sans les femmes? Ce qu'il faut, c'est être des hommes, des lions. Et moi, je ne suis qu'un agneau, une brebis folle. Mais est-ce ma faute? Je ne me suis pas fait ainsi moi-même. Ah, si je m'étais fait moi-même, je me serais donné un cœur de pierre. » Qui sait, peut-être qu'avec le temps, cette folie me passera. Telles étaient ses réflexions, mais elles ne lui rendaient pas le courage, car il pressentait bien que sa folie durerait longtemps. Cependant, un désir aigu grandissait peu à peu au fond de son cœur. celui de revoir Madalena. Mais sur ce point, sa résolution était ferme. Bien plus, il redoutait même le jour où Tia Aneda, Madalena et Pietro viendraient pour la tente des brebis. Et néanmoins, il comptait les jours qui le séparaient de ce jour-là. Et en même temps qu'il avait peur, il éprouvait un frisson de plaisir à penser que ce jour approchait. La veille de ce jour, sur le soir, il était occupé à boucher une brèche dans le mur de la tanka. Au-delà de ce mur s'étendait une autre tanka, la tanka boisée, dont Tio Martino Monet avait la garde. Où était donc le père de la forêt? Elias ne l'avait pas revu, quoiqu'il fût allé deux ou trois fois à sa recherche. Tout à coup, Tio Martino sortit du bois et, apercevant Elias, vint près du mur. C'était un vieillard gigantesque, encore droit et robuste, avec de longs cheveux jaunâtres, une épaisse barbe grise, une face qui ressemblait à du bronze ridé. Il était majestueux dans son vêtement sombre, par-dessus lequel il endossait un surtout de cuir, graisseux et sans manches. On aurait pu le prendre pour un homme préhistorique. Elias poussa une exclamation de joie, franchit le mur, tendit la main au vieillard. « On a rarement la chance de vous voir, Tio Martino. Je vous ai cherché deux fois. Comment allez-vous ? » ?
Heureuse rencontre.
Et puisses-tu avoir dans 100 ans une autre disgrâce comme celle que tu as soufferte ? » répondit Tio Martino, tranquille, d'une voix forte et avec une prononciation lente. « Quant à moi, je vais bien, mais j'ai dû m'absenter quelques jours. » Ils s'assirent sur le mur et causèrent longuement. Ils avaient tant de choses à se raconter. « Le premier soir où je suis revenu à la maison, dit soudain Elias, j'ai rêvé de vous. J'étais dans la cour chez mes parents. J'étais fatigué, j'avais un peu bu. Je me suis endormi et j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé que nous étions assis sur ce mur comme à présent. Les rêves se vérifient d'une façon étrange. « Oh, oh !» dit le vieillard, sans manifester la moindre surprise. Elias ne lui raconta pas en détail ce qu'il avait rêvé, mais il lui demanda « Est-ce que vous croyez aux rêves, Tio Martino ?»«
Que veux-tu que je te dise ? » ?»«
Ce ne sont pas, à proprement parler, les rêves qui se vérifient. Mais il arrive souvent que nous prévoyons une chose et que nous y pensons beaucoup. Et alors, nous la rêvons. Ensuite, si cette chose se réalise, il nous semble que notre rêve s'est vérifié, tandis que c'était tout simplement une chose qui devait avoir lieu. » Elias admira une fois de plus la sagesse de Tio Martino, mais il hocha la tête. Il repensait à son rêve sur le bord de l'Isal. Avait-il donc prévu et désiré l'entretien qu'il avait eu ensuite avec Madalena ? Non, il lui semblait bien que non. « Demain, reprit-il après un instant de silence, nous allons tondre les brebis, Tio Martino. Vous viendrez à notre cabane, n'est-ce pas ? Ma mère doit y être avec mon frère Pietro et sa fiancée. Ah oui, j'ai entendu dire que ton frère se marie. Sa future est-elle bonne ?
Oui, elle paraît bonne. Elle est belle.
Et la beauté ne suffit pas. Les tableaux sont beaux et on les accroche à la muraille où ils ne servent que d'ornement. L'essentiel, c'est que la femme soit bonne, qu'elle soit affectionnée à son mari et n'aime aucun autre homme sur la terre. » Elias devint songeur et ne répondit pas. D'ailleurs, il se faisait tard, le ciel pâlissait, le bois s'assoupissait dans la quiétude solennelle du crépuscule. Il était l'heure de rentrer. « Ainsi, vous viendrez, Tio Martino. Nous vous attendrons. Ne manquez pas. »«
Je viendrai. Ne manquez pas, » insista Elias en repassant le mur.
« Je n'ai jamais manqué à ma promesse, Elias Portolo. Salut ton père pour moi. »«
Bonsoir. Bonsoir. »
Tio Martino ne manqua pas à sa promesse. Il vint même de très grand matin et il aida les pâtres à faire les préparatifs pour cette sorte de fête champêtre. L'aube orangée incendiait l'Orient, versait des splendeurs d'or roses sur l'herbe et sur les pierres de la tanka. À l'Occident, le bois se taisait dans les fonds clairs d'un ciel ardoise. Tio Portolo, occupé à préparer la jonchée, faisait rougir au feu une pierre et lui adressait, selon son habitude, des paroles de louange ou de blâme. Elias et Tio Martino tuaient un agneau aussi gros qu'une brebis, l'écorchaient, lui écarter les jambes, retirer les entrailles fumantes. Pietro et les femmes arrivèrent un peu après le lever du soleil. Ils étaient venus lentement sur un char conduit par Pietro.
Personne ne se dérangea pour aller à leur rencontre, mais Elias sentit son cœur battre violemment. Agile et svelte, Maddalena descendit la première, secoua ses jupes. Puis, elle aida Tia Aneda et Tia Rita à descendre. Tia Aneda avait apporté une abondance de provisions de pain frais et de vin. Tandis que Pietro déchargeait le char, les femmes s'acheminèrent vers la cabane. Maddalena était plus jolie et plus gracieuse que jamais. Sa chemise très blanche, brodée et empesée, son jupon d'indienne brune, ourlé de bleu, dessinait sa personne bien faite. À peine Elias l'eut-il vue près de lui, et fut-il sous l'empire de ses yeux ardents, il comprit qu'il serait incapable de se défendre. Mais dans cet affolement de joie anxieuse, il eut encore la force de penser « Il faut que jamais je ne reste seul avec elle. Sans quoi, je suis perdu. Il faut que je me confie à quelqu'un, que je prie quelqu'un de me suivre toujours, de ne jamais me laisser seul avec elle, si l'occasion s'en présente. Oh, j'ai peur de moi-même. Mais à qui dirais-je cela? À ma mère? À mon père? Non, ce n'est pas possible. À Mattia? Il est incapable de comprendre. Eh bien, je parlerai à Tio Martino. » Il respira. Cependant, Tio Martino, solennel, du haut de sa taille gigantesque, observait la fiancée. Tio Portolo faisait les présentations en riant de son rire contraint et goguenard. « Hé hé, sanglier chenu, la vois-tu, la future de Pietro? Elle s'appelle Maddalena. » Et elle sait filer et coudre, et jamais personne n'a rien dit sur son compte. « Regarde-la, cette blanche tourterelle. Ne sens-tu pas qu'elle exhale un parfum de rose? Et celle-ci, cette Arita Scada, la vieille tourterelle. La vois-tu, Tio Martino? Oui, je la vois. « Bonjour, » dit Tia Arita, en se tournant avec curiosité vers le vieux. « Vous êtes Dorune, à ce qu'il me semble. Vous vivez dans la Tanka de X. Oui, je suis Dorune, et je vis dans la Tanka de X. » « Vous causerez plus tard, » interrompit Tio Portolo. « Pour le moment, il s'agit de manger la jonchée et le lait caillé. »« Allons, allons, vite, vite !» Le soleil se lève à peine. « Ce n'est pas encore l'heure de manger la jonchée, » dit Maddalena en riant. Ma fille déclara sur un ton sentencieux Tia Arita, « Il faut manger quand on vous y invite, sans regarder si le soleil est haut ou bas. »« Hé hé, Martino Monne. « Tu l'as entendu, la vieille tourterelle? Ne t'avais-je pas dit qu'elle est sage comme l'eau ?» Ils entrèrent dans la cabane, où ils trouvèrent Mattia avec le chat et le cabri. Un peu plus tard survint Pietro, et la société fut au complet. Les femmes s'assirent sur des escabeaux de liège. Elias, qui était silencieux, mais qui n'était pas triste, distribua les corcaillos, cuillères faites avec des ongles de brebis, et Tio Portolo déboucha les vases qui contenaient la jonchée et le lait. Tio Martino dominait la scène et considérait avec persistance Maddalena. Ils mangèrent et burent copieusement. La jonchée était exquise, et Tio Portolo se serait offensé si ses invités n'avaient pas vidé jusqu'au fond les malunes de liège. Aussitôt après le déjeuner, on commença la tonte des brebis. Elles se laissaient prendre, liées, couchées sur l'herbe, sans faire la moindre résistance. Puis Elias et Mattia les tondaient adroitement avec de gros ciseaux à ressort. La laine emmêlée et sale s'amoncelait par terre, à droite et à gauche, et les brebis, délivrées enfin du lacet, retournaient au pâturage, amincies et tranquilles. Les femmes apprêtèrent le dîner, en réservant à Tio Portolo le soin de faire rôtir l'agneau. Mais Maddalena ne quittait pas des yeux Elias, vers qui semblait l'attirer un fil magique. Et chaque fois qu'il levait les siens, il rencontrait ceux de la jeune fille fixés sur lui, comme pour le fasciner. À un certain moment, ils demeurèrent seuls. Pietro était allé chercher quelque chose dans la cabane, Mattia poursuivait une brebis moins docile que les autres, et Tio Martino l'aidait à la reprendre. Elias eut une minute d'égarement, de peur et de plaisir indicibles, à se voir seul près de Maddalena, parmi les herbes et les grands chardons fleuris. Son cœur se mit à battre fortement, et un vertige d'amour s'empara de tout son être, lorsque ses yeux rencontrèrent le regard passionné et suppliant de la jeune fille. Ce regard disait « Sauve-moi, sauve-nous, tu m'aimes !» je t'aime. Je suis venu pour te demander de me sauver, de nous sauver, Elias. Oh, Elias !»
Mais, au contraire, il croyait se perdre et la perdre s'il écoutait ce regard, s'il écoutait le cri d'angoisse qui jaillissait de son propre cœur. Et il se fit violence à lui-même parce qu'il voulait être sauvé. Il détourna les yeux, porta au loin ses regards. La brebis courait dans l'herbe, pourchassée par Tio Martino et par Mattia, qui tâchaient de la rabattre vers un maquis. « Les imbéciles !» dit Elias. « Si j'y étais allé, moi, elle serait tendue maintenant. » Et il s'élança pour les rejoindre, laissant Maddalena seule dans le soleil, parmi l'herbe et les grands chardons fleuris, seule, les paupières baissées, avec une résignation de madone douloureuse. « Tio Martino !» dit Elias au vieux, tandis que Mattia les précédait en traînant derrière lui la brebis récalcitrante. « Mon cher Tio Martino, je vous en conjure, ne me laissez pas seul une seconde avec cette jeune fille. » Il avait parlé à demi-voix, un peu inquiet, un peu honteux, sans regarder le vieillard. Tio Martino l'examina du haut de sa taille gigantesque, longuement, profondément. Il comprit et il ne répondit rien. « Je vous expliquerai, ce soir. N'ayez pas de mauvais soupçons, mon cher Tio Martino, » dit Elias en relevant les yeux. « J'ai confiance en vous plus qu'en mon père. » Cette fois encore, Tio Martino ne répondit rien, ne s'émut pas, ne sourit pas. Il se contenta de frapper avec une main sur l'épaule d'Elias. Et pendant toute la journée, il le suivit comme une ombre. Le dîner fut extraordinairement gai et bruyant. Tio Portelou annonça à Tio Martino que Maddalena et Predendo se marieraient bientôt, après la récolte du froment. Mais le vieux ne parut pas se réjouir beaucoup de la nouvelle. Les femmes et Pietro repartirent au crépuscule. Maddalena affectait d'être gaie, riait, plaisantait, se tournait vers Pietro avec de continuels sourires. Et elle ne faisait plus attention à Elias. Mais Elias, peut-être aussi poussé un peu par l'amour-propre, n'était pas dupe de cette fausse allégresse. « Elle va croire que je suis un sot, » pensait-il. « Eh bien, tant mieux. » Mais si elle savait, si elle savait. Par instant, il lui semblait que son cœur éclatait, et un désir fou le tourmentait de sangloter tout haut, de crier, de porter ses poings à son front. Cependant, le char s'éloignait, et les taches rouges sang que faisait le corsage des femmes et la petite tache blanche et noire que faisait Pietro s'évanouissait dans le fond vert de la tanka, dans les lointains rosés du couchant. Jamais plus il ne la reverrait ainsi, libre et amoureuse, dans la solitude de la campagne, frémissante de passion à côté de lui, comme en cette matinée printanière. C'était fini, jamais plus. Le char disparut, et tout retomba dans le silence, tout fut vide autour d'Elias. Mais en se retournant pour regagner la cabane, il vit Tio Martino qui l'attendait. « Je m'en vais, » dit le vieux, lorsque le jeune homme fut près de lui. « Veux-tu me reconduire ?»« Allons. » Ils se mirent en chemin. Le soleil était couché. Les bois et les lointains se taisaient dans un fond de ciel rose, mais d'un rose dense et presque violacé. La tanka entière, les maquis lumineux, l'herbe immobile, les roches de l'eau reflétaient cette chaude clarté de rose pivoine. C'était une paix, une solitude religieuse. Tio Martino et Elias traversèrent toute la tanka sans échanger une parole et vinrent s'asseoir sur le mur, sérieux et grave. Elias se sentait triste, mal à l'aise. Il ne savait par où commencer et il regardait obstinément ses mains. Tio Martino comprit en quel état d'âme se trouvait son jeune ami, et il essaya de lui venir en aide. « Elias, commença-t-il, je sais ce que tu veux me dire. Maddalena est amoureuse de toi. » « Silence !» se fit l'autre avec effroi, en posant une main sur le bras du vieillard. Et comme pour s'excuser de cet effroi, il ajouta aussitôt, « Chaque petit maquis a de petites oreilles. » « Oui, répondit le père de la forêt, toujours grave. » Chaque maquis, chaque arbre, chaque pierre a des oreilles. Mais qu'importe, ce que je dis et ce que je vais dire, tout le monde peut l'entendre, à commencer par Dieu qui est là-haut,
et à finir par le plus misérable des esclaves. Maria Maddalena t'aime. Tu l'aimes. Unissez-vous donc en Dieu, puisqu'il vous a créé l'un pour l'autre. » Elias le regardait avec effarement. Il se rappelait l'entretien qu'il avait eu avec l'abbé Porquedou, les conseils, les avertissements reçus en cette inoubliable nuit de Saint-François. Lequel des deux fallait-il écouter ? « Mais elle est la fiancée de mon frère, Sio Martinou. Elle est la fiancée de ton frère ? Mais l'aime-t-elle ? Non. Donc, elle ne lui appartient pas. Et elle ne lui appartiendra jamais, selon les lois du Seigneur. » Le mariage d'amour est celui de Dieu. Le mariage de convenance est celui du diable. Sauve-toi, Elias Porteloup, et sauve la tourterelle, comme la nomme ton père. Si elle a accepté Pietro, c'est parce qu'on le lui a imposé. C'est parce qu'il a du blé, parce qu'il a de l'orge, des fèves, une maison, des bœufs, de la terre. Le diable opérait. Mais Dieu en avait décidé autrement. Il t'a fait revenir. Il t'a fait rencontrer cette jeune fille. Vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés, tout en sachant que, selon les préjugés des hommes, vous ne deviez pas même vous regarder l'un l'autre. Ne sens-tu pas en cela une force supérieure à l'homme et qui lui indique sa voie? N'est-ce pas la main de Dieu? Pense bien à cela, Elias. Y penses-tu? Y as-tu pensé? C'est vrai, répondit Elias. Mais il est mon frère. Il est mon frère. Nous sommes tous frères, et Pietro n'est pas stupide, il sait entendre la raison. Va, dis-lui, Pietro, j'aime ta fiancée et elle m'aime. Que veux-tu faire? Veux-tu faire le malheur de ton frère et d'une autre créature innocente? À la seule idée de parler ainsi à son frère, Elias sentit un frisson lui courir dans le dos. Et il secoua la tête avec douleur et terreur. Non, jamais, jamais je ne lui dirai cela. Il me tuerait, Sio Martinou. Tu as peur? Oui, j'ai peur. Pourquoi vous le cachez? Mais ce n'est pas de la mort. Ce qui me fait peur, c'est qu'alors elle serait perdue, et lui aussi, et toute la famille. Au surplus, ce n'est pas la seule épine que j'ai dans le cœur, Sio Martinou. Il y a encore ceci. J'aime mon frère, et même en admettant qu'il se résigne, je ne veux pas le rendre malheureux. Il pourrait se résigner plus aisément que toi, car son caractère est différent du tien. Je comprends tes bons sentiments, Elias, mais je ne les approuve pas. Réfléchis aux conséquences. Y as-tu jamais réfléchi? Maddalena t'aime à la folie, j'ai lu cela dans ses yeux. Si tu gardes le silence, elle épousera Pietro, viendra habiter dans ta maison, et vous finirez par vous perdre, car la nature humaine est fragile. Te rends-tu compte de cela, Elias? Y as-tu réfléchi? On triomphe aujourd'hui de la tentation, on en triomphe demain. Mais après-demain, c'est elle qui finit par triompher. Car notre cœur n'est pas de pierre. Y as-tu réfléchi? C'est vrai, répéta Elias, les yeux pleins d'épouvante. Ils se turent un moment. Autour d'eux, le silence était profond, infini. L'ombre descendait sur les bois. Le ciel de pivoine pâlissait et s'embuait de tendres nuances violettes. Soudain, Elias eut la sensation qu'un reflet de cette grande paix religieuse pénétrait dans son âme. « C'est moi, dit-il d'une voix changée, qui m'en irai de la maison. Tu te marieras? Prends garde que ce ne soit pire encore. Non, je ne me marierai pas. Que feras-tu donc? Je me ferai prêtre. Cela vous étonne, Sio Martinou? Je ne m'étonne de rien. Dites, que me conseillez-vous? Dans le rêve que je vous ai conté, ce rêve que j'eus le soir de mon retour, vous me conseilliez de me faire prêtre. Le rêve est une chose et la réalité en est une autre, Elias. Je ne te le déconseille pas si tu en as la vocation. Mais je te dis que cela ne suffira point pour te sauver. Nous sommes des âmes, Elias, des âmes aussi fragiles que les roseaux. Ne l'oublie pas. Mais enfin, que me conseillez-vous? Mon conseil, je te l'ai déjà donné. Va, retourne à la ville, parle à ton frère. Jamais, jamais, du moins à lui. Eh bien, parle à ta mère. Ta mère est une sainte femme. Elle mettra le baume sur les blessures. Ah oui, c'est cela, j'irai, s'écria Elias avec un transport subit. Il s'était décidé tout à coup, et un éclair de joie brillait dans ses yeux. Il se leva, fit quelques pas. Il aurait voulu partir tout de suite, se délivrer à l'instant même de cette espèce de cauchemar qui l'oppressait. Et il lui semblait que tout serait facile, que tout s'arrangerait de soi-même. Pendant quelques instants, il éprouva un bonheur si intense que, de sa vie entière, il n'en avait jamais éprouvé de pareil. « Alors, ne perds pas de temps, » reprit Tio Martino. « Vas-y dès demain. Parle. N'aie ni scrupules ni préjugés. Demain, je t'attendrai ici à la même heure, et tu me diras ce que tu auras fait. »« Oui, oui, j'irai, Tio Martino, et je vous apporterai des nouvelles. Bonne nuit et merci. Bonne nuit, Elias. » Après quoi, ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le lendemain, les deux âmes se retrouvèrent au même lieu, près du mur. Autour d'eux régnait le même silence pur, infini. Le crépuscule allumait d'un flamboiement rose les cimes du bois. Une pie chantait dans le lointain. Mais Elias était triste, défait, avec un air de souffrance et de lassitude sur le visage, comme dans les premières journées qui avaient suivi son retour. « Ah, mon cher Tio Martino, dit-il, si vous saviez comment cela s'est passé. Tout est inutile. Je ne puis parler ni à ma mère, ni à personne. Non, c'est impossible. Hier soir, je me sentais décidé. Il me semblait que j'avais un cœur de lion, ou plutôt un front d'airain, hardi et sans vergogne. Je me couche, je m'endors, je rêve. Et dans mon rêve, j'étais à la maison, je parlais à ma mère. Tout me semblait facile. Ce matin, je m'éveille, je pars, j'arrive chez nous. Et j'étais joyeux encore, plein d'espérance et de courage. J'appelle ma mère à l'écart. Je sens monter à mes lèvres les paroles que j'avais préparées. Elle me regarde. Et voilà que tout à coup, mon cœur bat avec violence. Un nœud me serre la gorge. Ah non, Tio Martino, non, c'est impossible. Je ne puis parler, même quand je m'y efforce. Je serais capable de commettre un crime. Mais révéler cette chose à mes parents, non, non, cela je ne le peux pas. Essaye encore une fois, dit le vieillard. Mais Elias eut un geste de répulsion, presque de révolte. Non, déclara-t-il d'une voix ferme, n'insistez pas, Tio Martino. Cela est supérieur à mes forces. Je pourrais y retourner 1000 fois sans jamais réussir à parler. Je sais ce que c'est, dit le vieillard, qui parut frappé d'un souvenir. Et après une minute de silence, « Je me rappelle un fait, » ajouta-t-il. À vrai dire, le cas était beaucoup plus grave. Mais l'homme était aussi beaucoup plus fort que toi, beaucoup plus énergique, libre de préjugés, violent. Il se proposait de commettre un crime, et il en avait déjà commis d'autres. Il voulait tuer un honnête homme. Cela lui semblait une chose naturelle, facile. Et dans son cœur, il était plus que résolu. Arrive le jour et l'heure fixée. Il va dans la maison de cet homme honnête, il le trouve à table, il peut le tuer sans nul danger pour lui-même. Mais l'homme honnête le regarde, et cela suffit pour que l'autre devienne incapable de lever le bras. Le même fait s'est reproduit à 2, à 3, à 10 reprises. Tandis que le vieillard parlait, Elias le dévorait des yeux, oubliant son propre tourment à écouter cette histoire. Non seulement il la connaissait déjà, mais il savait que cet homme violent était Tio Martino lui-même. Cette histoire-là, tout le monde la connaissait depuis des années. Et on ajoutait que l'homme honnête, étant venu aussi à l'apprendre, avait appelé Tio Martino, lui avait donné du travail, l'avait d'abord pris comme pâtre et ensuite comme gardien de cet encas. Depuis lors, Tio Martino était le bras droit, le serviteur le plus fidèle de celui qu'il avait voulu tuer. Lorsqu'Elias entendit de la bouche du vieux cette histoire étrange, il éprouva un soulagement. Au fond, il avait honte de sa faiblesse et de ses hésitations perpétuelles. Mais si un homme de fer comme Tio Martino n'avait pas réussi, dans sa jeunesse farouche, à vaincre la puissance d'un regard honnête, comment aurait-il pu, lui, pauvre et faible enfant, vaincre l'horreur de confesser aux siens ce qu'il croyait être un crime ? « Le fait que je t'ai raconté, ajouta le vieux, n'est certes pas comparable à ton cas. Mais ce fait démontre également qu'il existe au-dessus de nous une force contre laquelle, en certaines circonstances, nous ne pouvons rien. Et cependant, Elias Bartholou, tâche, si tu le peux, de faire quelque chose. « Je ne peux rien faire, » dit Elias découragé. « Désires-tu que je m'entremette ?» demanda le vieux, pensif, après une courte pause. Mais Elias lui serra le bras et protesta fièrement. « Jamais, Tio Martinou, jamais, jamais !»« Ah, ne me faites pas le tort de croire que j'y ai pensé une seconde seulement !»« Et j'ajoute, Tio Martinou, que si vous révéliez mon secret, je ne vous regarderai plus en face. Tu as raison, ce moyen ne saurait convenir. Non, en vérité, que me conseillez-vous donc ?»« Je t'ai déjà donné mon conseil. Fais quelque chose, agis, prévois. » »« Je prévois. Il faut que je laisse les événements s'accomplir. » Et ensuite, si je n'ai pas la force de résister, je ferai tout ce que je vous ai dit hier soir. Et tu feras mal, repartit le vieillard en se mettant debout. Essaye quelque chose, Elias. L'histoire que je t'ai racontée a bien fini par l'indécision d'un homme. Mais ton histoire à toi pourrait finir mal. Tu sais écrire. Eh bien, puisque ton frère sait lire, écris-lui. Entendez-vous, prévoyez l'avenir. Je ne te dis rien de plus. Une lueur d'espoir brilla encore dans les yeux d'Elias. C'est cela, je lui écrirai. Ils se séparèrent sans prendre d'autres rendez-vous. Et le jeune homme s'achemina vers la cabane, le cœur un peu moins lourd. Oui, oui, se répétait-il à lui-même, j'écrirai à Pietro comme font les messieurs. Je lui dirai tout. Il est raisonnable et il m'écoutera. J'ai une plume et du papier, j'enverrai la lettre par Mattia. Non, je la porterai moi-même. Je la donnerai à ma mère pour qu'elle la remette en main propre. Oui, de cette façon, tout marchera bien. Pendant une longue heure, cette nuit-là, il eut l'esprit occupé de la lettre. Il savait déjà comment il la commencerait et comment il la terminerait. Pour le reste, il n'y avait pas de difficulté. Le lendemain matin, lorsqu'il s'éveilla, il était encore fermement décidé à exécuter son projet. Et dès qu'il le put, il gagna sa place favorite, celle où il avait caché ses livres, sa plume et sa petite bouteille d'encre. Il fit ses préparatifs. Il s'assit à côté d'une grosse pierre, chercha la meilleure position, en trouva une excellente pour écrire commodément. Et puis il se mit à réfléchir. Le ruisseau passait près de là, chuchotant parmi les joncs. Une brise agréable se glissait à travers les sureaux, éveillait de longs murmures dans les hautes herbes et dans les arbres. Cent rumeurs vagues, proches, lointaines, animaient la tanka sous la bleuâtre clarté matinale. Il réfléchissait, et ses mains, qui n'étaient plus blanches, pressaient inertes la feuille de gros papier chiffonné qui s'étalait sur la pierre. Tout à coup, il releva la tête, sembla prêter l'oreille à une voix éloignée. Puis il ramassa la feuille de papier, la plume, le flacon d'encre, resserra le tout dans la cachette et s'en retourna vers la cabane. Non, décidément, il ne pouvait pas la vaincre, cette force supérieure dont lui avait parlé Tio Martinou.